Il était 9h il y a 2 minutes. Anaïs Feugat pour le retour des infos.
L'Iran prêt à se battre aussi longtemps que nécessaire. La réponse du régime ce matin au président américain qui assurait hier que la guerre allait bientôt se terminer. Donald Trump s'exprimait en conférence de presse pour la première fois depuis qu'il a lancé ses bombes sur l'Iran. Cela va se terminer bientôt, a donc déclaré le président américain, tout en contradiction, affirmant aussi être prêt à frapper beaucoup, beaucoup plus fort. Une promesse floue donc, mais qui a surtout eu pour conséquence de faire redescendre le cours du pétrole. Quand en France, face à l'explosion des prix, 28 centimes de plus, un bond de 16% pour le gazole. Le gouvernement avait annoncé hier un plan renforcé de contrôle, 15% d'anomalies constatées dans les stations-service contrôlées, selon le gouvernement ce matin. 6% d'entre elles seront sanctionnées. Sanctionnées non pas pour pratiquer des prix abusifs, les prix sont fixés librement par les distributeurs, mais pour un mauvais affichage. C'est ce que sont allés constater hier ces agents de la répression des fraudes, que vous avez suivi, Caroline Félix, dans l'Essonne, à Chilly-Mazarin.
Dan, inspecteur de la DGCCRF, brassard fluo au bras, photographie l'écran de la pompe.
On vient s'assurer donc directement à la pompe si le prix pratiqué, donc on voit affiché avec le prix du litre, on vient s'assurer que ce prix correspond bien au prix affiché sur le site du gouvernement.
1,80 pour le samplon 95, 2 euros le diesel, c'est bien ce que la station indique sur le site prixcarburant.gouv.fr.
La station-service est aux normes.
Et voilà, le contrôle est quasi fini. Dan va aussi vérifier les anciens affichages de prix de cette station. Il ne contrôle donc pas les tarifs en eux-mêmes. Jean-Claude aurait bien aimé, car en faisant son plein, il se pose des questions.
Ce serait bien aussi de contrôler les marges, ce qui ne dépasse pas les... Enfin, ils vont pas au-delà de ce qui est possible. Donc si on n'encadre pas les prix, en fait, ils vont faire ce qu'ils veulent.
Mais il trouve aussi utile de vérifier que les données remontées par les stations soient fiables, car elles sont utilisées par des applications comparatives comme celle d'ADEM.
Je peux regarder tous les prix des stations qui sont à côté.
Ce livreur l'utilise beaucoup en ce moment.
On n'a pas besoin de se déplacer en station et de regarder autour.
Ça vous évite de faire des tours, quoi.
Exactement, et du coup, consommer du gasoil et perdre du temps aussi.
Les prix de son application sont vérifiés, mais tout de même en hausse. ADEM a payé son plein 10 euros plus cher que la semaine dernière.
Un reportage Caroline Félix dans l'Essonne ce matin. Les bourses européennes rebondissent à l'ouverture. Cette nuit, l'Iran a lancé une nouvelle attaque sur les Émirats arabes unis. Israël continue de bombarder le sud et l'est du Liban. Et puis un deuxième missile iranien a été intercepté au-dessus de la Turquie. La Turquie qui déploie ses batteries anti-aériennes dans le centre du pays. C'est le plus mauvais bénéfice de Volkswagen depuis 10 ans, divisé par 2 l'année dernière à cause des droits de douane américains et des coûts de restructuration. Le constructeur automobile allemand annonce supprimer 50 000 postes en Allemagne d'ici à 2050. C'est plus que ce qui était prévu, avec des coupes supplémentaires chez Audi et Porsche. 3 nouvelles plaintes pour viol sur mineur déposées début février à Paris. France Inter vous le dévoilait ce matin. Des plaintes contre l'animateur d'une école maternelle du 15e arrondissement. Il est aujourd'hui suspendu, mais les parents s'interrogent sur son parcours. En décembre, il avait été déplacé d'une autre école, l'école Saint-Dominique, au cœur, elle aussi, d'un scandale de violence sexuelle, située dans le 7e arrondissement, dont la maire, Rachida Dati, est aujourd'hui candidate à la mairie de la capitale.
D'abord, les maires d'arrondissement, on n'a pas du tout la main ni sur le recrutement des animateurs du périscolaire, ni sur l'organisation du périscolaire. Sur les signalements, c'est toujours en interne. Nous, on est alertés quand les familles peuvent nous écrire en direct. Et quand l'animateur a été déplacé, c'est vrai qu'il a été déplacé à l'hiver dernier. On ne savait pas où il a été déplacé, mais on ne savait même pas qu'il avait été déplacé.
C'est pas vous qui avez demandé à ce qu'il soit déplacé ?
Non, nous on signale, on remonte en mairie centrale sans jamais aucune réponse. Ce scandale du périscolaire, il est d'une ampleur inédite. À ce jour, on ne connaît pas le nombre d'enfants victimes d'agressions sexuelles, voire de viols, et on ne connaît pas non plus le nombre d'animateurs, ou suspendus ou déplacés. On ne connaît pas les motifs et on ne sait pas où ils sont. Et on ne sait pas quelles sont les procédures qui ont été ouvertes. Ça fait 20 ans qu'il y a une omerta sur ce scandale sexuel dans le périscolaire. Mettez-vous à la place des parents. Ils ne sont pas reçus, ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas accompagnés.
Et la candidate LR Rachida Dati chez nos confrères d'ici ce matin dans cette campagne pour les municipales à Strasbourg. Un suspect a été placé en garde à vue après la plainte d'une candidate de la liste insoumise. Elle avait été menacée de mort par un homme qui avait sorti un couteau alors qu'elle collait des affiches en compagnie de ses enfants de 15 et 16 ans. Enfin, un mois de février particulièrement chaud sur la planète, le 5e le plus chaud selon les données de Copernicus ce matin, 1,4 49 degrés de plus en moyenne à la surface du globe par rapport à l'ère pré-industrielle avant l'utilisation massive des énergies fossiles. Un mois de février marqué aussi par de grandes différences pour les conditions hydrologiques. Pluies intenses et inondations en Europe occidentale et méridionale, on s'en souvient bien en France, quand le reste du continent, lui, est resté plus sec.
C'était le journal d'Anaïs Feuga. Merci Anaïs. Restez à l'écoute dans un instant, le magazine de la Grande Matinale.
France Inter, 10h, Ali Rebéi.
Ce mardi, dans Grand Bain vous fasse, comment sortir du brouillard mental, cette sensation d'être à côté de ses pompes d'un point de vue cognitif. Questions, témoignages au 01 45 24 7000.
Grand Bain vous fasse.
C'est tous les jours à 10h sur France Inter.
S comme S-Line, S comme surclassement. Jusqu'au 31 mars, la finition iconique Audi S-Line est offerte sur une large sélection de modèles. Plus qu'une finition, une signature emblématique et sportive. Profitez-en dès aujourd'hui sur l'Audi A3 Sportback hybride rechargeable ou l'Audi Q6 Citroën. Réservez votre essai personnalisé sur audi.fr.
Finition S-Line offerte pour tout achat ou location longue durée d'un modèle éligible dans le réseau participant, voire conditions sur audi.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Je suis né en Palestine, une terre en larmes et en sang. Je suis aujourd'hui moine à Bethléem. Le prieur de Bethléem, le nouveau roman de Yasmina Kadra, aux éditions Flammarion.
Il est 9h08 sur France Inter. La Grande Matinale, le mag, nous voici embarqués jusqu'à 10h pour débattre, cuisiner, peindre et taquiner avec Charline Vanhoenacker tout à l'heure, qui nous parlera de la plateforme Polymarket avec Daphné Burki et sa nouvelle tête, le peintre et poète Falmarès. À 9h30, vous retrouverez le débat du jour. Kanye West, immense rappeur américain, annonce un concert à Marseille. Ses sorties antisémites et même pro-Hitler révulsent. Il s'en est excusé. Faut-il, oui ou non, interdire Kanye West ? On en discutera tout à l'heure. Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Stéphanie Lequellec, 2 étoiles au guide Michelin pour son restaurant parisien, siège actuellement au jury de Top Chef, concours culinaire cathodique qu'elle a elle-même remporté fut un temps. Stéphanie Lequellec publie un livre de 115 recettes dans une collection mythique. L'occasion de montrer ce qu'elle sait faire, des sommets de technicité. L'occasion aussi de montrer ce qu'un grand chef est capable d'oublier. La maestria du geste, la complexité de la composition, pour retrouver tout simplement du gourmand. Or, qu'est-ce que la gourmandise, si ce n'est l'alliance mystérieuse des papilles et du souvenir? Oui, il y a du vécu, il y a du passé, il y a de la mémoire, il y a beaucoup de nous, enfants, dans ce qui nous rend gourmands. Portrait numéro 103. Bonjour Stéphanie Lequellec.
Bonjour Sonia, bonjour à tous.
Soyez la bienvenue sur France Inter, votre restaurant La Seine, 2 étoiles. Je l'ai dit, la reprise de la saison 17 de Top Chef dans laquelle vous êtes juré, ça veut dire que en ce moment, c'est la colo des chefs parce que c'est une édition itinérante. Donc vous êtes dans des trains, vous êtes dans des voitures, vous êtes dans des avions, ouais. Vous vous baladez un peu partout en France. Ça veut dire que vous quittez le restaurant pendant ce temps-là?
Un petit peu, oui, ponctuellement.
Ah, ponctuellement. Et puis, il y a eu ce livre de recettes publié il y a quelques semaines, Le goût de la mémoire, dans une collection absolument mythique, culte, que les chefs eux-mêmes collectionnent. C'est les recettes originales et c'est paru chez Robert Laffont. Et justement, vous avez choisi d'intituler ce livre des recettes originales, cette édition, Le goût de la mémoire. Et moi, je vous propose un voyage dans votre histoire, Stéphanie Lequellec, à travers vos recettes, un portrait culinaire. Si je vous dis pot-au-feu.
Oh bah probablement mon plat préféré et mon plus grand souvenir d'enfance, celui du dimanche midi, celui que je faisais avec ma maman, avec ma grand-mère. J'épluchais les légumes avec elle, je regardais la viande mijoter comme ça. Et puis ce bouillon se construire, parce que mon plus grand souvenir du pot-au-feu, c'est le bouillon, c'est la moelle. Et puis c'est surtout cette tablée du dimanche midi où on passait à table un peu tard.
Ouais, ça signifie que la cuisine du souvenir, c'est des odeurs, des images, des sons, des ambiances, puisque la table participe de ce souvenir. C'est donc pas une cuisine cérébrale.
Alors absolument pas.
Moi, c'est une cuisine d'essence.
Oui, moi la cuisine c'est plutôt viscéral, voyez, c'est plutôt ancré au fond du cœur. Mon intention de cuisine première, c'est une espèce d'acte d'amour parce que je suis venue à la cuisine comme ça, par ma maman, par ma grand-mère, par ce côté rassembleur de la table, absolument par la technique. Et moi, quand à l'âge de 14 ans, je me lance dans une quête d'école hôtelière, on parlait de deux étoiles, j'ai pas du tout ce fantasme-là, j'ai pas ce rêve-là de petite fille. Moi, ce que je veux faire, c'est, oui, des pot-au-feu, des steaks au poivre.
Alors, si je vous dis tomate farcie, Stéphanie Lekelec.
Tomate farcie, c'est septembre, c'est effectivement...
C'est septembre.
Ouais, c'est septembre, parce qu'elles sont bonnes en septembre, les tomates. C'est là qu'elles sont meilleures. Elles sont gorgées de tout le soleil de l'été, et puis après, la tomate farcie, on y met un peu ce qu'on veut, peu importe, elle peut être tout végétale, on peut y mettre du veau, du porc, peu importe. Et puis en fait, chaque
vous
famille...
Vous y mettez beaucoup d'herbes fraîches.
Moi, j'y mets beaucoup d'herbes fraîches, parce que j'ai une cuisine qui aime beaucoup les herbes comme ça, mais en fait, ce qu'il y a de magique dans ces plats-là, c'est que chaque famille détient sa propre recette et son secret, et qu'il y a cette espèce de transmission.
Et dans cette transmission, il y a quelque chose qui vous a beaucoup marqué dans votre enfance, c'est le fait d'avoir fait le marché avec votre grand-père chaque dimanche, c'est ça? C'était le marché du dimanche
le
matin?
Le samedi, le mardi, le
à Enghien-les-Bains.
Moi, je grandissais à Enghien-les-Bains et le mardi, le jeudi et le samedi, il y avait un marché couvert absolument merveilleux.
Mais je note que c'est un homme qui faisait le marché dans votre famille.
Oui, parce que mon grand-père...
Pour avoir fait beaucoup le marché, il y a beaucoup de femmes au marché.
Je sais, il y a beaucoup de femmes, mais mon grand-père était un homme absolument exceptionnel, très dévoué à ma grand-mère qui avait des soucis de santé. Et c'est lui qui allait au marché, de la même façon que c'est lui qui avait son jardin. Il avait un petit jardin à Montmorency, le mercredi après-midi, il m'y emmenait. C'était nos moments à nous. Le marché, le petit pastis que lui prenait, moi la grenadine, après le marché, ça c'était des espèces de rituels. Et effectivement, c'était un homme.
Mais c'était les grand-mères qui cuisinaient. Ouais. Est-ce que vous rendez hommage à Jacqueline et à Liliane?
Oui, absolument. C'est mes grand-mères qui cuisinaient merveilleusement bien. Et puis, on est sur ces cuisines de cocottes, ces cuisines de cocottes en fonte qui mijotent, en fait.
Cuisine de cocottes.
Oui, de cocottes
rien
en fonte.
Rien que la façon dont vous prononcez le mot cocotte.
Bah oui, parce que c'est la cuisine dans laquelle je crois. C'est la cuisine par acte d'amour, en fait. La cuisine de femme est une cuisine par acte d'amour, en fait. C'est nourricier, cette cuisine-là, et on essaye de faire plaisir.
Alors attendez, cette cuisine de femme, vous venez de prononcer le mot, on va remonter le temps, l'ORTF en 1955, justement, qu'est-ce que c'est qu'une cuisine de femme quand on écoute la radio publique en France en 1955?
Je crois que la cuisine des femmes est excellente et je suis un des premiers à la louer, mais je crois que la cuisine des hommes est indispensable. C'est-à-dire que la cuisine française n'avancerait pas, ne progresserait pas, ne se perfectionnerait pas s'il n'y avait que des femmes. Oui, ce sont les hommes qui inventent et ce sont les femmes qui perpétuent la cuisine, qui perpétuent les vieilles recettes, les vieux plats familiaux, les daubes et cassoulets et poules au pot. Mais ce sont les chefs qui perfectionnent, qui inventent.
Est-ce que nous avons une somme de documents suffisants pour affirmer que ce sont toujours des hommes qui sont à l'origine des plats, des grands plats français?
Non.
Non. Et vous, qu'en pensez-vous? 1955.
Moi,
il y a 70 ans.
Il y a 70 ans, fort heureusement, on a un petit peu changé de point de vue sur tout ça.
Donc les femmes, elles perpétuent la tradition, les hommes inventent.
Voilà. Non, moi je pense que ce qu'il y a de beau dans la cuisine, mais comme dans tout, c'est justement le mélange des hommes et des femmes. Je ne crois pas à la cuisine sexuée, moi. Mais je crois qu'effectivement, il y a des intentions de cuisine. Et souvent, l'intention de cuisine des mamans, c'est de nourrir. Les hommes, effectivement, dans les cuisine plus professionnelle, dirons-nous. Peut-être ont eu le sentiment d'amener une forme de technique, mais moi je suis pas pour. Moi je suis pour l'apaisement des sexes en cuisine et que chacun mette la pierre à l'édifice. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, 70 ans après, c'est que mine de rien, je crois qu'on dépouille les cuisines de cette forme de technicité, peut-être amenée par les hommes. Mais en tout cas, aujourd'hui, on revient à une forme d'essentialisme dans la cuisine et de quête, effectivement, de profondeur, de goût, de souvenir et puis de se régaler tout simplement. En fait.
Alors si je vous dis pomme de terre gorgée d'un bouillon de poisson de roche.
Bah écoutez, c'est un des plats aujourd'hui qui figure à la scène, comme quoi on peut avoir deux étoiles avec un plat de pomme de terre. En fait, là encore, c'est cette cuisine du souvenir, c'est-à-dire que tous ces plats mijotés, ce qui en est bon, c'est le lendemain quand justement les pommes de terre se délitent un peu dans le jus. Alors on peut parler d'une bouillabaisse, on peut parler d'une daube de bœuf, on peut parler d'un navarin d'agneau. Ce qui est bon, c'est quand ça a chauffé, réchauffé et que les choses se délitent un peu, accrochent un peu dans le fond de la cocotte. Et là, on arrive à une forme de quintessence des goûts et des textures, en fait.
Et si je vous dis vin de pêche?
Ah, ça, c'est purement, ça, c'est un souvenir de ma maman, évidemment, qui le tenait elle-même de sa maman. Et c'est effectivement entre le 15 juillet et le 15 août, on récolte les feuilles du pêcher et on les met à infuser comme ça, dans un petit peu de vin, un petit peu d'alcool, un petit peu de sucre, sans que ça relance une fermentation. Et donc, ça donne des notes, ça donne un espèce d'apéritif.
Trois semaines.
Voilà.
Trois semaines,
mais ça mature encore. C'est-à-dire que même après, quand on a fait la filtration, la magie opère encore dans la bouteille et le vin vieillit un peu finalement et se patine là aussi. Et ça donne un apéritif, en tout cas, probablement celui dans lequel j'ai trempé mes lèvres la première fois. Vous voyez, mon premier rapport à l'apéritif.
L'alcool, c'est venu de là.
Bon, l'alcool, j'irai pas, mais en tout cas, la notion déjà d'apéritif, est-ce que ça représente, c'est-à-dire le partage, partager un moment, un peu de convivialité, c'est ça l'apéritif au-delà de la consommation d'alcool.
Donc c'était votre grand-mère, c'était votre mère, et maintenant vous faites le vin ouais. de pêche. Je dis ça parce que vous avez vous-même trois fils,
oui.
à qui vous dédiez évidemment le livre, Baptiste, Maxime et Arthur. Donc ce sera une transmission, pour le coup, de mère en fils.
Évidemment, et une transmission qui se fait un petit peu, je ne vais pas dire contre notre gré, mais de manière assez naturelle, puisque j'ai les deux aînés qui ont épousé des voies assez similaires.
Ah tiens,
puisque
alors...
voilà, après deux années de droit, mon fils aîné m'a dit « Non, mais en fait, je fais fausse route, je crois que j'ai besoin, comme vous, de donner du bonheur, de rencontrer des gens, d'échanger, de partager. » Donc, il est aujourd'hui barman, dans un très bel hôtel parisien. Et puis, mon numéro 2...
Si dans le très bel hôtel parisien, vous retrouvez le vin de pêche, vous vous demandez tout.
Pas encore, mais je ne désespère pas qu'un jour il y ait un cocktail clin d'œil à sa maman et à ses grand-mères. Et puis mon numéro 2, comme moi à l'âge de 14 ans, est rentré à l'école hôtelière et il est aujourd'hui pâtissier, lui aussi, dans un très bel hôtel.
Alors lui pâtissier, d'accord. Le troisième est tout petit encore ?
Écoutez, il parle déjà de pâtisserie, mais je désespère pas d'en faire un cuisinier quand même.
Alors justement, écoutez Michel Guérard, je vous fais écouter Michel Guérard parce qu'il raconte, il a l'âge qu'a votre petit dernier, 8 ans, il raconte comment il a eu envie de faire des gâteaux à l'âge de 8 ans. Mais je le cite aussi parce que dans cette collection mythique, Les recettes originales 2, l'édition de Michel Guérard, c'est vraiment le collector absolu. Ça s'appelait La grande cuisine minceur, à l'époque ça s'est vendu à 1 million d'exemplaires, non. Ça a été traduit dans 15 langues, écoutez Michel Guérard.
Je me souviens, quand j'étais tout gosse, j'aimais déjà cette fête organisée à partir de la table. Je m'amusais déjà à préparer des petits plats, des petits gâteaux faits par exemple avec de la peau du lait.
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
Oh, j'avais 7 ans. Eh bien, j'invitais mes petits copains à manger ces gâteaux, mais je les invitais sous une toile à matelas, sous un sac à pommes de terre. Je faisais une tente, je dressais mon camp du drap d'or. Je pense que la cuisine doit s'accompagner, en effet, d'un certain faste.
C'est très joli.
C'est joli, puis c'est extraordinaire parce que, en fait, la cuisine, quand on y vient de manière presque instinctive, parce qu'il y a une notion de prédestination, finalement, je pense un peu à la cuisine dans le cas de Michel Guérard, mais dans le mien aussi, puisque pareil, à l'âge de 8-9 ans, je suis rentrée dans la cuisine en faisant des petits sablés, mais en allant au-delà de ça, c'est-à-dire
à cet âge-là aussi.
Oui, et en faisant ça comme avec de la pâte à modeler, puis ensuite je les cuisais, je les rangeais dans une petite boîte en métal, et après je jouais à la marchande avec. Donc, vous voyez, la cuisine était comme pour Michel Guérard, toute une histoire et tout un prétexte à un univers qui allait se construire autour.
Vous dites beaucoup, Stéphanie Lequelec, que vous êtes à un moment de votre vie où vous voulez, comment dire, que la technique que vous avez acquise ne se voit pas, ne se sente pas, même si pourtant elle est là. Vous dites que vous êtes à un moment où les chefs de votre génération décomplexifient, et pourtant Michel Guérard avait déjà beaucoup décomplexifié. Pour le grand public, c'est pas si évident que ça à comprendre. Qu'est-ce que ça signifie faire oublier la technique ?
Je crois que la cuisine, c'est quand même un parcours initiatique pour la cuisinière ou pour le cuisinier d'abord. Donc d'abord, on se construit et on se construit à travers l'acquisition des grandes techniques, effectivement, parce qu'il faut avoir, tout comme quand on est musicien, il faut faire le solfège et il faut apprendre les gammes avant de pouvoir composer. Bah, il est très important d'avoir cette technique pour après avoir la possibilité de raconter ce qu'on a envie de raconter dans une assiette. Et puis, il arrive un moment, donc on est très heureux quand on a 25-30 ans, temps qu'on acquiert cette technique, de la montrer, de
on
montrer
crâne.
Qu'on est... Je sais pas si on crâne, mais en tout cas, elle est dure à acquérir, cette technique. On l'a acquise, donc on la montre un petit peu. En
alors
tout
cas, de quoi on est fier quand on a 26 ans?
Là, on est fier. Moi, si je vous prends un plat que j'ai fait, que je fais depuis une dizaine d'années maintenant, qui est un petit pain perdu avec un peu de caviar sur le dessus. Bon, bah, j'étais très contente quand j'ai sorti ce plat-là, parce que c'était l'alliance du pain, de la brioche en tout cas, du coquillage, de la pomme de terre et du caviar. Une alliance qui marche bien. Et j'étais contente d'en faire quelque chose de très technique. Alors je chemisais un moule comme ça à 6 faces avec des toutes petites tranches de brioche dans laquelle j'enfermais un soufflé de pomme de terre et puis du jus de coquillage. Et puis on venait coiffer le tout de caviar et il a très bien marché. Ce plat-là, il nous a emmené à 2 étoiles. Et puis quand j'ai eu 2 étoiles, je me suis dit, mais est-ce que ce plat-là aujourd'hui, qui est très compliqué à réaliser techniquement, est-ce que je suis au maximum de la sensation et de l'émotion que je peux donner à travers ce plat-là? Et puis, il y a 1 an et demi, vous voyez, c'est pas si vieux que ça, je l'ai simplifié, je me suis dit, mais assume le fait de faire un simple cube de brioche, de le tremper dans un petit peu de jus de coquillage, dans un petit sabayon, de le poêler, d'arriver à avoir cette caramélisation autour. Et puis aujourd'hui, quand on mange ce plat-là et qu'on se souvient de celui d'il y a 2 ans et demi, 3 ans, bah, c'est le même plat, mais c'est plus le même plat. Visuellement, c'est le même. Et puis d'un seul coup, celui-là, il amène dans une dimension encore supplémentaire. Donc il est simple, il est beaucoup plus simple techniquement, mais il emmène dans une autre dimension culinaire finalement.
On arrive sur une grande terrasse au milieu des montagnes. Là, il y a les 5 chefs alignés.
La pression, elle augmente encore plus, elle monte.
Les chefs ne vous aideront plus en cuisine. En revanche, vous allez vous retrouver face à eux pour des dégustations qui seront de véritables examens de passage.
Est-ce que tu es content de ton plat?
Du tout.
Bah, tu devrais pas le dire déjà.
On voulait vraiment un siphon qui se tenait, donc peut-être que là, ça se tient un peu moins bien.
C'est pas la question du chef.
Pour vous, on a un truc sans surprise.
À l'image de ce que vivent les chefs au quotidien dans leur cuisine, vous devrez défendre vos plats.
J'ai un bout d'un raid qui tu te casses une dent dessus, quoi.
Ton poisson, il est pas assez cuit.
Il y a un entre-deux, parce que du coup, on est... Mais
attends, il va nous rouler dans la farine.
Vous êtes juré dans Top Chef. Vous avez gagné Top Chef grâce à la complexité, grâce à la maestria, grâce à la technique. Alors maintenant que vous êtes juré, qu'est-ce que vous cherchez chez ces jeunes chefs?
La même chose, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on a
mais
envie...
Mais ils n'ont pas votre âge, ils n'ont pas votre expérience, ils n'ont pas votre maturité.
Oui, mais j'avais 28 ans quand j'ai gagné Top Chef, c'est à peu près l'âge des candidats aujourd'hui. Et moi, Top Chef a été une vraie bascule dans ma carrière, c'est-à-dire que la rencontre avec les chefs jurés à cette époque-là m'a obligée à me dépasser, m'a obligée à aller chercher qui j'étais dans une assiette. Donc aujourd'hui...
Donc à dépasser la technique.
Bien sûr, à dépasser la technique. Donc aujourd'hui, évidemment, on va vouloir voir un petit peu de technique, on veut voir des cuisinières et des cuisiniers qui ont quand même une sensibilité de cuisine et de la technique. Mais aujourd'hui, on attend autre chose. On attend à ce qu'ils nous livrent, on attend à ce qu'ils nous surprennent, on attend à ce que, justement, ils décomplexifient et qu'ils aillent à l'essentiel, c'est-à-dire nous donner de l'émotion. En fait, la cuisine, c'est de l'émotion, tout simplement.
Alors, je prends une des recettes les plus techniques, les plus difficiles. 4 fourchettes du livre.
Oh là là, attention.
Oh là, pâté croûte.
Ah oui, alors là,
alors,
là il faut un peu de technique. Là,
c'est la recette de qui?
C'est la recette de mon mari.
Voilà.
Parce que ça, c'est son truc. Le pâté croûte, c'est son truc.
David Le Quellec.
Donc, c'est un hommage aussi que je lui fais dans ce livre de mettre en avant sa recette et pas la mienne, mais c'est celle que je sers aujourd'hui au bistrot de la Seine. Voilà, comme quoi c'est aussi une affaire et de famille et d'union, la cuisine. Mais oui, c'est un peu de technique. Puis ça prend du temps, en fait. Le pâté croûte, il faut de la patience. C'est sur 3 jours. Il faut
que vous ayez 3 jours devant vous. 3 jours de cuisine. Et c'est quand même assez joli. Parce que vous me disiez tout à l'heure, je vous ai vraiment posé la question, est-ce qu'il existe beaucoup de couples de chefs dans les chefs médiatisés, médiatiques? Pas vraiment, non? Vous êtes
Pas beaucoup, il y a des couples, effectivement, je vous le disais, cuisine-pâtisserie, cuisine-sommellerie, cuisine-restaurant. Cuisine, il n'y en a pas beaucoup, il y en avait un sur l'édition 16 de Top Chef, Philippine et Charles, que j'embrasse parce que c'est un couple extraordinaire.
Allez,
je les aime beaucoup, ils sont venus faire un 8-mains avec nous et j'adore leur restaurant à Paris.
Un 8-mains,
bah, ça commence à faire du monde dans la cuisine.
Vous avez cuisiné à 4, vous avez fait un 8-mains.
Ouais.
C'est formidable. Alors, Top Chef, c'est sur M6, évidemment. Merci Stéphanie Le Quellec d'avoir fait un détour par le studio de France Inter. Et donc, ces recettes originales, elles paraissent, hein, le goût de la mémoire, elles paraissent chez Robert Laffont, dans cette collection mythique qui s'était éteinte et que Robert Laffont remet au goût du jour.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Can't hurry love, though you just have to wait.
Matin, vous attendez 9h25 sur France Inter pour écouter de la musique formidable. Dites-vous que derrière, il y a Valentine Chedebois qui choisit les disques. Et ce matin, c'était évidemment Diana Ross, c'était évidemment Les Suprêmes. On était en 1966. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour le Mac de la grande matinale. 9h45, Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Bonjour. Inter. Je vais Bonjour. Parler des paris en ligne sur l'actualité parce qu'on peut parier sur les guerres pour se faire plus de blé. C'est plus amusant que de vendre des armes. Et vu le niveau de cynisme, je crois que je suis bien, bien large pour faire des blagues.
Oui, Daphné Burki, bonjour. Oh,
bonjour, bonjour. Ce matin, moi, ma nouvelle tête s'appelle Falmarès. Il est poète et il y aurait, Charline, de la poésie partout, même dans les tempêtes de la vie. Donc, il faut absolument que je vous le présente.
Allez, il est 9h28 sur France Inter et c'est l'heure du débat du jour.
Jesus Christ, Hitler, yay!
I see good things about Hitler also.
Je me sens un peu fatigué ce soir, mais dès que je me réveille, je rentre en mode DEFCON 3 contre les juifs.
Lecture d'un tweet de Kanye West, rappeur américain de génie, 24 Grammy Awards, annonce un unique concert en France à Marseille le 11 juin prochain. Le maire Benoît Payan, je le cite, refuse que sa ville soit une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé. Vous avez bien entendu, oui, le chanteur américain a multiplié les sorties antisémites, voire carrément pro-Hitler. Il s'en est depuis platement excusé, alors faut-il dès lors le mettre au banc.
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Faut-il interdire Kanye West ? On en discute avec Michel Guérin. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef au Monde. On connaît vos chroniques culturelles. Face à vous, Mehdi Mezi. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Journaliste musical, producteur de la formidable émission À la régulière. Écoutez tous les soirs à 22h sur France Inter. Mehdi, on a besoin d'abord de vous. Vous avez suivi la carrière de Kanye West depuis ses débuts. Est-ce que vous pouvez nous le replacer, on va le dire, dans le paysage musical américain ?
Ouais. Je vais essayer d'être concis parce que la carrière, mine de rien, elle a plus de 25 ans maintenant. Mais à la base, c'est un producteur qui vient de Chicago. Quand je dis producteur, c'est-à-dire qu'il fait de la musique. Il est derrière les machines à la base. Hein. Il ne prend pas le micro au début de sa carrière. Donc, il commence à faire des productions, à créer des morceaux pour des gens notamment comme Jay-Z. Je pense un des grands moments de sa carrière, c'est quand il travaille avec Jay-Z et qui va notamment être derrière un album important, The Blueprint, qui sort d'ailleurs le 11 septembre 2001. Ça, c'est une autre histoire. Et puis, un peu après, il va devenir rappeur, et ça va être la première fois qu'on va avoir un producteur, c'est-à-dire quelqu'un de l'ombre qui va être aussi important derrière les machines que au premier plan. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau dans l'histoire du rap. On a un bidouilleur à la base, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est derrière des machines avec des boîtes à rythme et qui devient potentiellement la plus grande star du genre musical dans laquelle il travaille. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau dans les années 2000. Et à l'aube des années 2010, il va avoir une ambition encore plus grande, c'est de faire de la musique de stade et de devenir une pop star. Et spoiler, il va réussir. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'à la base, on parle d'un technicien, vraiment, qui est devenu une énorme pop star, avec en plus tout un feuilleton à suivre avec ses frasques, ses histoires d'amour, Kim Kardashian, etc.
Voilà, il a été marié avec Kim Kardashian, ils ont 4 enfants ensemble, ils ont divorcé depuis. À partir de quand ça devient un personnage assez sulfureux ?
Alors, en fait, pour nous, c'est peut-être un peu plus cryptique, mais aux États-Unis, ça l'a toujours un petit peu été. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des mêmes polémiques que celles qu'on va parler aujourd'hui, mais en fait, il y a toujours eu des moments un peu compliqués. Au moment de l'ouragan Katrina, il avait critiqué ouvertement George Bush, et à l'époque, ça avait beaucoup fait parler. Il avait critiqué Taylor Swift lors d'une cérémonie, et ça avait énormément fait parler avec Obama, qu'il avait insulté de Jackass à l'époque, qu'il avait mis un peu au banc d'ailleurs. Ça avait été un peu
Taylor Swift, c'est vraiment la petite fiancée de l'Amérique.
C'était le début de la carrière de Taylor Swift, et vraiment, il avait attaqué
La petite blonde, la
nouvelle enfant prodigue d'Hollywood, enfin de l'Amérique, pardon. Et donc, ça c'est un moment où justement il avait déjà été presque cancel une première fois, pour des choses qui n'ont rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui. Mais donc toute sa carrière, ça a été un petit peu ça. Et puis en fait, la force des grands artistes, c'est qu'à chaque fois, ils arrivent un petit peu à se faire pardonner avec un grand album.
Ouais.
Et là où c'est plus compliqué pour Kanye, c'est que ça fait depuis, on va dire, 2018, à peu près, où il y a un certain nombre de déclarations, de positionnements, qui là ont fait parler et qui sont un peu plus grave, ou en tout cas plus surprenant de sa part.
Michel Guérin.
Ou est-ce qu'on peut pas ajouter aussi que c'est quand même quelqu'un, on n'a pas vu venir ce virage. J'ai l'impression que c'est un des premiers aussi à avoir lutté contre l'homophobie dans le rap. Il a eu un rôle assez important. Il a défendu Franck Océan, j'ai vu.
Bien sûr.
C'est super important qu'il ait fait son coming out. Et puis, est-ce que vous, par rapport à ce que vous dites sur la musique, ça n'a pas été un des premiers à valoriser le travail collectif en studio et que donc, finalement, c'était presque un exemple. C'est ça qui est fascinant, de voir d'où il vient. par rapport à ce qu'il est devenu. C'est voilà, encore plus,
là
plus
dit,
incroyable.
2018, a dit Mehdi Mezi. 2018, c'est le moment où il affirme que l'esclavage est un choix. Ça a duré 400 ans. Donc 400 ans, c'est qu'on a choisi. Je précise que Kanye West est noir lui-même, oui. Afro-américain. En 2022, il sort une collection de vêtements avec un t-shirt sur lequel il est marqué « White Lives Matter », c'est-à-dire pour prendre le contre-pied des « Black Lives Matter » aux États-Unis. Et puis arrive ce moment où il déclare qu'il voit des bonnes choses chez Hitler et il affiche sa proximité avec un influenceur antisémite américain qui s'appelle Nick Fuentes. Mm-hmm. Ça, c'est une déflagration aux États-Unis, Mehdi Mezi ?
C'est complètement une déflagration. Et puis je me permets juste, parce que quand on parle de la ligne de vêtements en 2022, Kanye West, il a presque été aussi influent dans la musique que dans le textile. C'est-à-dire que c'est aussi très important, c'est que sa marque Yeezy, les chaussures qu'il a mis en place, ont eu une influence mais énorme entre 2015 et 2019. Donc le fait qu'il utilise aussi ce levier-là pour promouvoir d'autres idées ou d'autres symboles, ça a aussi une importance vraiment non négligeable. Et oui, bien sûr, ça a été une déflagration. Et surtout, je pense que c'est le moment où ça fait longtemps que beaucoup... Enfin, il y a énormément de fans de Kanye, et je pense qu'à chaque fois, les gens attendaient soit un revirement, soit un retour à la normale, soit des excuses. Et quand, plutôt que de s'excuser ou de redevenir le Kanye qu'on connaissait, il va encore plus loin, je pense que c'est un peu un point de non-retour qui a été franchi à ce moment-là. On s'est dit, en fait, on ne peut pas uniquement tout lui pardonner sous prétexte qu'il a sorti des grands albums.
C'est vraiment la discussion ce matin, parce que retour, il a donné un concert absolument spectaculaire à Mexico, il s'est excusé, il a mis en avant ses problèmes de bipolarité, maladie mentale dont il souffre de manière extrêmement grave, extrêmement aiguë depuis plusieurs années. Donc voilà le grand retour de Kanye dans les stades. Michel Guérin.
Ouais. Le grand retour, c'est d'être un peu fort, hein. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de dates partout.
C'est vrai.
C'est la seule date française, j'ai l'impression.
Oui, Marseille.
Il faut quand même aussi voir, c'est peut-être le seul sujet qui fait l'unanimité dans la campagne municipale à Marseille.
C'est-à-dire
ils sont tous contre sa venue, de l'extrême droite à l'extrême gauche.
Donc Martine Vassal est contre, Sébastien Vassal,
l'histoire est partie quand même de la colistière de Martine Vassal, qui est des présidentes du CRIF en Provence. Il faut savoir que la communauté juive est centrale dans le vote à Marseille. Mm-hmm. Pour la plupart, elle est partie au RN. Il y a eu pas mal d'enquêtes là-dessus, mais c'est pas un hasard si ça part de là. Et ensuite, tous les partis ont embrayé, les uns derrière les autres, en disant. Alors, ce qui est fascinant, c'est de dire, mais comment on a pu arriver à un
truc
pareil ?
Donc, la droite, la gauche, l'extrême droite,
tout le monde.
Tout le monde. C'est-à-dire même Sébastien Delogu.
Oui, tout le monde.
Tout le monde s'est opposé à la venue de Kanye.
Il n'y a pas le sujet. La question, vous savez, c'est au stade Vélodrome.
Oui.
C'est l'OM. Le stade appartient à la ville.
D'accord.
Mais la ville ne peut pas interférer sur la programmation. Il n'empêche quand même, c'est incroyable, je sais pas, on n'a pas d'infos depuis quel jour, on ne sait toujours pas si le concert va avoir lieu. Mm-hmm. Alors peut-être qu'on attend les élections, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une espèce de flou complètement là derrière, c'est-à-dire comment on a pu inviter, sans se poser de questions, cette star mondiale, sans que la municipalité, le maire, ne soit un peu interrogé. Parce que quand on sait ce qui se passe, comme vous l'avez bien expliqué, c'est quand même incroyable. Il faut peut-être rappeler aussi le concert à l'Accor Arena. Enfin, c'est pas vraiment un concert.
Alors,
effectivement,
il n'y a pas longtemps.
Mais je crois qu'il y a deux ans, quelque chose comme ça.
Voilà, 2024, je crois.
C'était des listening sessions, comme il appelle ça. En fait, c'est des gens qui payent le prix d'une place de concert pour voir globalement Kanye West pendant deux heures jouer son album dans l'Encore Hotel Arena.
Et chanter vraiment, je
sais pas chanter du tout, même pas de playback. L'album passe.
Ça avait fait polémique à l'époque, qu'ils viennent en France, qu'ils viennent à Paris, déjà.
Déjà, on en parlait un petit peu. Maintenant, la polémique avait rien été sans commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Pourtant, il avait déjà des sujets, des propos problématiques. Mais le sujet aussi, c'était est-ce que ça vaut le coup de payer ? Est-ce que là, on n'est pas dans de l'arnaque pure et simple ? C'est-à-dire que c'est encore autre chose.
C'est encore autre chose.
Exactement.
Alors là, la question, c'est faut-il interdire Kanye West ? Oui. Ou non, où on est tellement partagé que notre cœur saigne. Je parle d'abord à vous, Mehdi Mezi, qui le suivez depuis très longtemps. Aujourd'hui, vous payeriez pour aller voir Kanye West ? Vous auriez envie d'aller le voir ?
Alors, à titre personnel, parce que vous me posez la question de manière personnelle, moi je réponds de manière personnelle, non. Moi, je n'écoute plus Kanye West. Maintenant,
À cause de tout ça,
j'ai beaucoup de mal à écouter Kanye aujourd'hui.
C'est moins bon qu'avant aussi, non ?
Alors, déjà, c'est moins bon.
Là, on parle pas de ça.
Ça, c'est un vrai sujet, mais j'ai même du mal à écouter les anciens albums. Pourtant, Dieu sait qu'ils ont été extrêmement importants pour moi. C'est vraiment un artiste que j'ai vu du début jusqu'à aujourd'hui, donc de l'explosion jusqu'à la dégringolade. Moi, j'ai du mal à écouter aujourd'hui. Maintenant, je pense que c'est vraiment, est-ce qu'il faut écouter, est-ce qu'il faut l'interdire ? C'est une relation très personnel qu'on a chacun avec notre système de valeurs, avec notre morale. Et je ne donne pas de leçon de morale justement en disant ça. Je pense vraiment que c'est très compliqué. Quand on a été extrêmement touché par des artistes, c'est compliqué de se positionner. Est-ce qu'on veut
alors
encore...
Alors, c'est pas qu'une question intime, c'est aussi une question politique. Vous l'avez soulevé, Michel Guérin, parce que le Vélodrome est au cœur de Marseille, c'est un symbole de Marseille, ça appartient à la ville. Est-ce que refuser que Kanye West passe par Marseille pendant sa tournée mondiale, est-ce que c'est ce qu'on appelle de la cancel culture ?
Non, pas du tout.
Pourquoi pas du tout ?
Non, mais parce qu'il y a la loi.
Exactement.
Le baromètre, c'est la loi. La loi interdit tout acte et tout propos antisémite ou raciste, et puis chaque élu évidemment s'appuie sur cette loi-là et aussi sur le trouble à l'ordre public, et donc à partir de là évidemment,
c'est pas une question de cancel culture,
rien à voir.
C'est comme quand on interdit
une question sociétale, c'est une question juridique.
C'est une question juridique.
C'est comme pour Dieudonné, exactement. Lorsqu'il y a eu pas mal de concerts, encore récemment, des concerts de Dieudonné ont été...
Des spectacles
ont été interdits dans le sud ou ailleurs.
Et c'est là où j'ai besoin de vous, Mehdi Mezi, c'est-à-dire, est-ce que la musique de Kanye West véhicule des appels à la haine ? Est-ce que la musique de Kanye West, est-ce que dans les concerts de Kanye West, il y a des déclarations pro-Hitler ou des choses antisémites ?
Alors,
ou est-ce que ce sont des tweets et des sorties délirantes en dehors de sa musique ?
Il y a eu un morceau qui n'est pas sur un album officiel, qui ne fait pas partie des grands œuvres de Kanye, mais qui existent, dans laquelle il fait ouvertement l'apologie d'Hitler. Donc ça existe, ça.
Donc c'est passé à travers son
exactement.
Art.
Exactement. Je ne doute pas. Je ne sais pas s'il va le jouer en concert. J'en sais rien. Je ne pense pas.
C'est marginal quand même.
C'est marginal, mais ça existe.
Ça existe.
Par contre, ça pose quand même une question, effectivement. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui est dit sur le fait qu'il y ait la loi.
La loi.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Mais j'ai pas la réponse à ça. Quand un artiste s'excuse, est-ce que c'est sincère ou pas ? Est-ce qu'on le croit ? Est-ce qu'on le pardonne ? J'ai pas la réponse et je pense que ça pose une vraie question morale.
Michel Guérin, vous avez beaucoup justement documenté, réfléchi, chroniqué ces questions-là, ces débats qui ont été très aigus ces 10 dernières années sur la cancel culture. Un artiste qui produit un spectacle dans lequel il n'y a aucun morceau qui fasse polémique, qui pose problème, qui interroge vis-à-vis de la loi, qui s'est lui-même excusé en disant « j'ai été malade, je passe par des hauts, je passe par des bas, je passe par des périodes où je délire ». Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?
Le problème, c'est aussi la durée. C'est-à-dire que, il s'est excusé une fois, il faut voir un peu sur le temps comment il va évoluer. J'ai l'impression qu'il est bipolaire. Beaucoup de gens qui sont bipolaires se soignent. J'ai pas l'impression que lui se soigne. On a l'impression qu'il peut déraper encore.
Mais indépendamment de ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette œuvre ?
Comme vous l'avez dit, chacun fait comme il veut. Il entend chez lui. Vous écoutez.
Oui, mais d'un point de vue politique.
D'un point de vue politique, moi, je n'irai pas voir ce concert. Ça, c'est certain. J'attendrai un petit peu de voir les choses. On peut se poser la question de savoir pourquoi il a pu chanter en 2024 à Paris, se produire, alors que d'autres. Comme Medine, par exemple, a été interdit pour trouble à l'ordre public dans plusieurs concerts, même encore récemment, jusqu'en 24, un rappeur, alors même que...
Ça signifie que Kanye West serait français
C'est une question, pourquoi l'un, pourquoi pas l'autre. Ça montre bien que c'est au cas par cas qu'il faut juger, les moments, etc. C'est assez compliqué, hein.
C'est assez compliqué. D'ailleurs, Mehdi Mezi, il n'a pas été cancelé aux États-Unis. Enfin, par exemple, par les plateformes, il n'a pas été cancelé. C'est-à-dire que sur Spotify, il cumule un nombre d'écoutes absolument prodigieux.
Tout à fait, mais parce que je pense que... Alors...
La loi n'est pas pareille aux États-Unis.
Le premier amendement
permet quand même beaucoup plus de choses aux États-Unis. Même si vous avez en même temps Trump qui vous balance des horreurs dès que vous dites un truc de travers contre lui. Donc c'est tellement compliqué ce pays en ce moment.
Et puis après, cette histoire de cancel culture sur les plateformes, c'est vraiment une responsabilité des citoyens et des citoyennes, puisqu'en fait, les plateformes, elles prennent pas vraiment position. R. Kelly, on peut encore l'écouter, R. Kelly. Hein. La musique d'R. Kelly,
c'est
complètement...
un chanteur de R&B
qui est accusé et reconnu coupable d'agression sexuelle,
de trafic.
Exactement, c'est quelque chose de terrible. Mais je veux dire, on peut l'écouter. Il a encore 20 millions d'auditeurs par mois sur Spotify.
Donc les plateformes ne cancellent pas.
Non. Parce que c'est peut-être pas leur rôle.
Michel Guérin.
Moi, je crois quand même au pardon. Hein. Je crois quand même à la rédemption. Pardon, enfin, je veux pas utiliser des termes religieux.
Oui, il y a un arc rédemption.
Je suis très américain.
Je suis absolument pas religieux sur toutes ces choses-là, mais on a droit à pouvoir avoir une deuxième vie, j'espère, mais je pense qu'il faut attendre un peu et voir où il va aller.
Et puis, il y a aussi, on sait qu'il y a sûrement un album de Kanye West qui va arriver.
Oui.
Est-ce que ces excuses-là, elles ne sont pas cyniques et opportunistes ? Est-ce que c'est pas...
Bah quand même, donc, c'est ça clignote.
C'est aussi pour ça que je rejoins ce qui est dit, c'est peut-être qu'il faut un petit peu attendre. Dans quelle mesure ces excuses-là, elles sont sincères ou elles ne sont pas là pour justement servir la sortie d'un éventuel album?
En tout cas, c'est assez étonnant. Vous êtes tous les deux venus en studio ce matin avec une casquette bien vissée sur la tête.
C'est vrai.
M'attendais à ce que Mehdi plaide l'artiste face à l'homme qui déraille et je m'attendais à ce que Michel Guérin soit très sévère en termes de cancel culture. C'est l'inverse et c'est ça qu'on aime sur France Inter. Mehdi Mehzi, Michel Guérin, je vous remercie tous les deux d'être venus de discuter de cette question brûlante. Si le concert a lieu et le lendemain du concert, je vous propose de revenir, on le débriefe ensemble.
Avec grand plaisir.
Ça vous va, vous restez avec nous dans un instant. Dans un instant, Charline Vanhoenacker, et là on écoute Mickey.
Y'a des pistes dans ses yeux, pistache, et je peux pas m'y faire. Y'a des bots qui font tout à notre place, à partir un coup quand on a rien à faire. Sourire avec les yeux quand il sait si bien le faire, bâtard. C'est le monde à l'envers, c'est moi qui me demande si je fais pas tout de travers. Mais j'arrive pas à lui plaire, j'essaie de trouver la femme, y'a rien à faire. Je raccroche mon tel, je me parle à moi-même, mais de fou, c'était ça que je voulais au début. Moi aussi, ouais, putain, trop bien. Être pote, c'est ça, ça tombe à pic, mais c'est pic, 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 un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pip pip, ça me fout l'air. Mais c'est pic pic pic, un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pip pip, ça me fout l'air. Comme un célibataire de 30 balais. Quand ça sonne à ma porte, c'est pour voisin d'en bas. Et même quand c'est la pause, bossez jamais pour moi. Moi je suis là, j'ai des tailles, mais des lèvres dans le frigo. Y'en a un peu trop, je pensais que tu viendrais, mais je suis solo. Du coup, je reste dans ta friendzone. Mais c'est pic pic pic, un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Pip pip, ça me fout l'air. Mais c'est pic pic pic, un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic, un peu quand même. Bip bip, ça me fout l'air. Ça fait pic pic pic, pic pic pic. Ça fait. Ça fait pic pic pic, pic pic pic. Ça fait. Ça fait pic pic pic, pic pic pic. Ça fait.
Ça pique un peu quand même. Et c'est Mickey, Mickey qui va remplir l'Élysée Montmartre à Paris 3 soirs de suite la semaine prochaine, du 18 au 20 mars. Je crois que vous pouvez encore vous glisser sur une liste d'attente. Il est 9h45. Merci à tous d'écouter France Inter. Charline Vanhoenacker, c'est son tour. C'est maintenant. Charline, il est aujourd'hui possible de gagner de l'argent en pariant sur la guerre. Oui, oui. La plateforme de paris en ligne Polymarket permet de miser sur les événements de l'actualité.
Oui, vous avez peut-être entendu comme moi que des joueurs ont empoché 500 millions de dollars en pariant sur la date d'intervention des Américains en Iran.
Non.
Si, et ceux qui parient sur des décisions de Trump ont vraiment le goût du risque, hein. Ou alors, les Américains aiment tellement les paris en ligne qu'ils ont voté pour un président totalement imprévisible. Alors pour savoir s'ils ont gagné, les joueurs ne regardent plus le tirage du loto mais le journal télévisé. Le système est fondé sur l'idée que le grand public a besoin de miser sur un génocide pour s'informer à son sujet, par exemple. Ça vous calme, hein, le journaliste ? Albert Londres, aujourd'hui, présenterait le tirage du loto. Et certains grands médias comme CNN passent déjà des accords avec ces sites pour diffuser les paris en direct et en exclu. En effet, Florence, de nouvelles explosions sont en cours à Beyrouth et d'autres devraient avoir lieu à Jérusalem avec une cote de 6 contre 1. Et c'est sûr qu'après, tu vois l'actualité sous un autre angle. Hein.
C'est... Carrément.
Ah oui, la dernière opération militaire en Iran a fait 120 morts. Oh non, bordel, c'est pas possible. Oui, je sais, c'est horrible. Non, j'avais parié 1000 balles sur 200 morts. Mais qu'est-ce qu'il a foutu, Netanyahou ? Ah, moi, j'aurais parié que c'était un coup des Américains, tiens. Parce que donc, ça suffisait pas de rendre les gens accros au jeu d'argent. Fallait aussi les rendre sadiques en même temps. Les paris sportifs, c'est chiant, personne ne meurt. Alors sur ces plateformes, ce sont ceux qui misent sur la paix qui enrichissent ceux qui parient sur la guerre. Donc, oh, on vit une belle époque quand même.
C'est, ouais, ouais, c'est vertigineux.
Oui, voilà. Le fondateur de la plateforme Polymarket, il déclare « Il existe encore beaucoup de résistance à l'innovation qui peut sembler dérangeante au premier abord. » Alors, c'est vrai qu'au début, quand on te dit que c'est pour se faire de l'argent sur le malheur des autres, c'est un peu dérangeant, au premier abord. Mais après, quand tu comprends qu'en réalité, il s'agit de se faire de l'argent sur le malheur des autres, Non, ça marche pas, en fait. Non, mais pour ces gens-là, la paix, c'est un manque à gagner terrible, il faut le dire. C'est sûr que miser sur l'actualité, il y a du blé à se faire. Moi, je mise 20 balles sur le fait que cette semaine, Trump va dire ou faire quelque chose d'indécent. Qui pour parier avec moi dans ce studio? Daphné, Sadia, allez, ok. Je parie que d'ici 2 mois, Nicolas Sarkozy va connaître des problèmes judiciaires. Ça intéresse quelqu'un? On mise ou pas? Je parie que d'ici jeudi, Sonia va passer à côté d'au moins une de mes blagues.
Oui.
Bah oui, j'avoue, ça c'était trop facile. Alors en France, le site est illégal, mais parfois accessible. Alors il est possible de parier sur, par exemple, la date à laquelle Macron va envoyer le Charles de Gaulle dans la rade de Nice pour régler le conflit terrible entre Ciotti et Strozzi. Hier, il était possible de parier sur le résultat des élections dans 7 villes de France. 14 millions de fonds misés sur Paris. Dans la semaine, il n'y a pas de jeu de mots, mais j'avoue qu'il y avait un piège. J'avoue. Cela dit, c'est une info, le Parisien, et les joueurs misent sur une victoire d'Emmanuel Grégoire. C'est toujours pas une blague. Désolée Sonia, là, je me rends compte, ça devient vraiment très technique. Hein. Moi-même, je m'y perds. Même les municipales en France attirent les parieurs. Alors, lors d'une élection, quand t'as plus de gens qui mettent de l'argent dans un pari qu'un bulletin dans une urne, c'est peut-être qu'il est déjà trop tard pour s'inquiéter.
Charline Vanhoenacker.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Et il est 9h49 et nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Ce matin, ma nouvelle tête s'appelle Falmarès. Il est poète. Il dit d'ailleurs que la poésie est de loin la plus belle langue de toutes les langues. Et quand on lit ses recueils, franchement, j'avoue qu'on est assez d'accord avec lui. Falmarès, il a 25 ans et si c'est une nouvelle tête, c'est parce qu'il s'impose aujourd'hui comme une voix singulière de la poésie contemporaine. Il a dû quitter son pays natal, la Guinée, à 14 ans après le décès de sa mère. Il a traversé l'exil, la violence, connu la terreur de la Méditerranée, à bord d'un Zodiac, pour finalement arriver en France, à Nantes, où il est rentré au lycée. C'est à 16 ans qu'un couple d'éditeurs décide de publier ses poèmes, impressionné par la précocité lyrique de ce jeune garçon qu'il surnomme « Réfugié poétique ». Bonjour Falmarès, bienvenue sur France Inter.
Bonjour Daphné, merci pour l'invitation.
Je suis ravie que vous ayez accepté.
Qu'est-ce que c'est beau le réfugié poétique, c'est beau.
Vous validez quand on vous a appelé le réfugié poétique?
C'est pour la première fois mes premiers éditeurs qui ont employé ce mot. Et c'est tellement beau aussi, ça m'a surpris d'ailleurs, parce que j'aime bien ces accumulations, ces rencontres inattendues de mots. Et je trouve que ça va, ça correspond à
ce que... Ça vous représente bien?
Oui.
Sauf qu'aujourd'hui, vous publiez Le Jardin des Flamboyants chez Flammarion. Vous dites que tout poète rêve d'écrire un grand poème et que vous avez donc ce rêve-là aussi. Et ce recueil, bah, c'est un long poème qui raconte différents épisodes de votre vie. Vous dites « Dans les pires moments de ma vie, j'ai découvert une belle merveille, la poésie, l'art de voir les choses autrement. Je ne veux pas du confort, je veux de la poésie. » Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez rencontré la poésie?
Quand j'ai fait ce long périple-là, parce que d'abord, c'est les choses familiales tragiques qui m'ont poussé à l'exil, et ensuite, en passant par plusieurs pays, venir jusqu'en Italie. Quand je suis arrivé en Italie, j'étais traumatisé par ce parcours-là. C'est là, pour la première fois, j'ai commencé à écrire pour me lire, l'envie de lecture qui m'a poussé à cela. Et je me lisais, ça m'aidait à m'endormir. Je ne connaissais pas avant la poésie, j'avais jamais vu la poésie, ni lu de la poésie. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire des courts textes pour me lire. Et
pour
je
vous
lisais.
Lire et pouvoir vous endormir et voilà. Oublier l'horreur de ce que vous avez vécu.
Exactement.
Ouais. Et d'ailleurs, vous écrivez « J'ai assez vécu pour écrire. Je suis un revenant. J'avais déjà vécu ce monde plusieurs fois. » C'est une résurrection aujourd'hui, à 25 ans encore?
Oui, je me dis que c'est une chance aussi de vivre ce périple-là, parce que quand on voit, il y a encore aujourd'hui des gens qui meurent en Méditerranée, dans le désert du Sahara, dans les déserts, etc. Et sortir en fait de ce périple, être là, et c'est une seconde vie, c'est une seconde chance, je me suis dit c'est une...
Et de parler d'eux, parce qu'on ne parle pas d'eux, en fait on ne sait pas qui c'est.
Ouais, et profiter de cette seconde chance de vie et aussi témoigner, parce que c'est au final c'est les gens là qui sont des héros, au final les gens qui n'ont pas la possibilité de raconter leur histoire là, et moi je parle pour toutes ces personnes là.
Moi, quand je vous ai rencontré, vous aviez publié Catalogue d'un exilé. Sauf que là, dans Le Jardin des Flamboyants, c'est des petits riens. C'est les grands bouleversements du quotidien que vous racontez. Alors, tout est poésie hein, chez Falmarès. Vous voulez bien nous lire votre revendication? Ça s'appelle « Nous voulons davantage de poésie », s'il vous plaît.
Avec plaisir. Nous voulons davantage de poésie pour explorer le monde. Davantage d'exil poétique. Si mon cœur était une rose, je l'aurais partagée avec chaque être. Nous voulons davantage de poésie pour penser davantage notre vie personnelle, notre vie collective. Nous voulons une autre façon d'habiter le monde, car nous ne vivons plus. Davantage d'air frais, davantage de choses stables. Nous voulons davantage d'amour, d'amour et d'amour pour connaître le dernier baiser et la première belle mort dans les bras de l'être aimé au septième ciel. Nous voulons davantage de poésie pour que nos cœurs se rencontrent, pour revenir à moins d'instantané, au présent éternel. Nous voulons prendre soin d'une petite fleur, la voir grandir, sentir son odeur parfumée tous les jours. Nous voulons réparer les choses autant que possible. Nous voulons davantage de poésie, car la poésie est liberté.
Merci beaucoup.
Ah, bravo, 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 Falmarès. Nous voulons davantage de Falmarès. Nous voulons Falmarès tous les jours.
Oui, je suis d'accord, Sonia. Et ce recueil, il est hyper lumineux. C'est 400 pages. Il y a de la joie, franchement. Il y a de la célébration de la beauté du monde. Ces petits riens. Bien sûr que vous racontez l'exil. Bien sûr que vous racontez l'horreur de la Libye. Mais vous parlez aussi de la possibilité de s'inventer un grand destin. Et ça, pour les lecteurs, c'est formidable. Et puis, pardon, Falmarès, mais vous parlez d'amour maintenant. Et plus du tout comme un lycéen. C'est nouveau, ça aussi.
Oui, j'ai appris au fur du temps, en lisant de la poésie, en lisant un peu de tout, j'ai lu un peu de tout, en écoutant de la musique aussi, en regardant des films, en discutant avec les aînés, les amis.
Et ouais, c'est vous avez fait des rencontres aussi, Falmarès.
Beaucoup de rencontres aussi.
On y
aussi,
va quand même, ça va.
Petit cachetier.
L'un et l'autre, quand même. Bon, en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, Falmarès. Il y a un article très beau de Clémentine Godzal dans Le Monde qui dit que dans le service de néonatologie de l'hôpital Robert Debré à Paris, on lit des poèmes, figurez-vous, à voix haute, à des bébés prématurés. C'est un orthophoniste et une éditrice qui viennent lire des poèmes aux nourrissons nés beaucoup trop tôt, et les médecins constate que ça apaise les enfants et que ça stimule leur développement.
Même Alors, Houellebecq.
Est-ce que la poésie, ça vous a réparé? Est-ce que ça répare? Est-ce que c'est un conseil que vous donnez aux auditeurs peut-être ce matin? Ça soigne?
Oui, quand je passe souvent dans les écoles ou même dans les universités, je conseille la lecture d'une manière générale. La lecture nous nourrit, nous répare, l'écriture aussi. La lecture soigne, ça m'a soigné de ce périple-là, des choses difficiles que j'ai vécues. Bien sûr que j'ai appris davantage la langue française, que j'aime beaucoup, et aussi des petites choses en France. Mais la lecture est primordiale, et l'écriture aussi, si on veut, si on a les moyens de le faire.
Ouais. Oui. J'ajoute que pour les flemmards, c'est très pratique la poésie. On lit une page, on s'endort et tout va bien. Vous avez une petite dédicace ce matin. Oui. Je demande toujours à mes invités s'ils ont une dédicace, mais il me semble qu'elle est dans le recueil et elle est pour les lecteurs. Écoute.
À vous, lecteurs. À vous, chers lecteurs si curieux, qui débordent d'énergie autant que moi. Le jardin des flamboyants. Les poèmes de ce recueil sont pour vous, comme des chants populaires, une petite fleur d'amour au matin, quand le cœur s'éveille. À vous, chers lecteurs, à vous, chères lectrices, curieux et curieuses, je vous fais don de ces chants populaires.
Merci beaucoup.
Merci Daphné, merci à vous.
Si tout est poésie, si vous en voyez partout, quel est le dernier endroit qui vous a inspiré?
J'étais récemment dans une résidence qui s'appelle la maison Germaine Tillon, près de Lorient. J'ai habité cette maison pendant 3 mois et c'est là où j'ai écrit mes derniers poèmes. Et voilà, c'est les derniers. Et cette grande dame...
Qui était une grande résistante.
Voilà, une grande résistante. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ces figures-là, à la fois féminines, mais aussi figures humaines aussi, qui incarnent les valeurs humaines que nous avons besoin aussi.
Ça s'appelle Le Jardin des Flamboyants, c'est publié chez Flammarion. Merci Falmarès.
Ah oui, merci vraiment beaucoup. Vraiment, vous revenez régulièrement nous avec voir, vous nous faites beaucoup de bien. Et en plus, ça tombe très bien aujourd'hui parce qu'on est le 10 mars et que France Inter est associée au Centre National du Livre. Aujourd'hui, c'est la journée de la lecture, ça s'appelle le quart d'heure de lecture. C'est dès que vous pouvez, tchac, vous attrapez une page de Falmarès, vous lisez du Falmarès ou tout ce qui vous fait plaisir, mais vous lisez un quart d'heure. Et vous allez entendre d'ailleurs un petit 2 minutes de lecture là sur France Inter. C'est la fin de la grande matinale. Ali.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Ali, vous êtes là?
Oui,
Ali,
je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez déjà ressenti du brouillard mental, cette impression de flottement, de ne pas être vraiment présent à ce que vous faites, d'oublier des choses, d'avoir du mal à vous organiser, de vous engluer dans une tâche? Eh bien, ce matin, avec Cerveau et Psycho, on va vous aider à sortir de ce brouillard mental qui peut être lié à un Covid long, à un burn-out, à une fibromyalgie, à la ménopause ou à certains cancers et traitements anticancéreux. N'hésitez pas à nous appeler au standard au 01 45 24 7000.
Allez, c'est la fin de la grande matinale. À tout à l'heure, Ali.